Nzamba.
Nzambi la samirana.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.
Nous sommes dimanche le 28 août 2022. Vous êtes bien sur la radio Inzamba à Gateka Kawe. Merci pour votre fidélité. C'est l'heure de la rétrospective hebdomadaire de l'actualité, la tranche des informations qui ont marqué cette semaine. À la présentation, vous êtes avec Karine de Savé. Bienvenue à tous.
Inzamba.
Bienvenue encore une fois dans cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Ce vendredi marquait exactement 17 ans, jour pour jour, que CNDD-FDD est au pouvoir. C'était après avoir signé en 2003 un accord de cessez-le-feu. Javerian Dikuliyo, le secrétaire général du CNDD-FDD, lors de la croisade de ce parti jeudi, a exhorté les membres de cette formation politique de bâtir leur nom partout où ils se retrouvent. Pour le Forum pour le renforcement de la société civile, le Burundi vient plutôt de passer 17 ans en otage d'une poignée de gens au pouvoir qui confrontent des intérêts privés à des intérêts nationaux. Vital Chimilimana, délégué général du FORST, invite l'autorité au plus haut sommet de l'État à se ressaisir en dotant le pays des institutions indépendantes comme l'appareil judiciaire qui, de son avis, n'existe qu'en apparence.
Et tout le monde le sait. Le système du CNDD-FDD a organisé une gouvernance chaotique durant les 17 dernières années. En effet, à y regarder de près, tout le monde constate que le CNDD-FDD a pris en otage le pays, y compris les membres du même système, même les miliciens Imbonerakure, et qui sont également victimes de la terreur d'État organisée par les généraux. C'est une mafia qui ne jure que par la recherche effrénée de la richesse, au point de confondre l'intérêt national et l'intérêt privé. Il n'y a plus de départ entre la chose publique et la chose privée, et tout est confondu. Il y a une mauvaise gouvernance qui gangrène le pays, au point que le Burundi est devenu un des pays les plus corrompus du monde, un des pays de nos droits caractérisés par l'absence extraordinaire de l'appareil judiciaire et qui normalement devrait redresser la situation en poursuivant et en sanctionnant ceux qui s'adonnent au détournement des deniers publics, à la corruption et à d'autres crimes. Aujourd'hui, le Burundi connaît une crise politique, humanitaire et sécuritaire grave, en témoigne des centaines de milliers de réfugiés qui croupissent dans des camps de réfugiés dans les pays limitrophes du Burundi, mais aussi d'autres Burundais où d'ailleurs on constate des départs continus des réfugiés burundais vers d'autres pays plus sûrs, plus sécurisés. Donc il n'y a rien à retenir de la gouvernance du CNDD-FDD parce que cette gouvernance a fait reculer le Burundi au point qu'aujourd'hui le Burundi est reconnu dans tous les palmarès comme le pays le moins riche du monde, comme le pays le plus pauvre du monde, comme le pays où les droits humains sont violés de façon continue et permanente.
La grogne est grande au sein des militaires envoyés en mission de maintien de la paix en Somalie. Ils disent ne pas comprendre comment le taux de change de la Banque centrale n'a pas été respecté lors du calcul du dernier solde de 2 mois qu'ils viennent de percevoir. Selon eux, le jour de la paix, le dollar se changeait à 2030 francs burundais le dollar à la BRB. Mais à la perception, le calcul a été fait sur 1950 francs. Ce qu'il qualifie de vol. Les précisions avec Georges Nimenia.
Ces militaires estimés à 4800 ont été envoyés en mission pour le maintien de la paix en Somalie, disent ne pas comprendre pourquoi le taux de change de la banque centrale n'est pas appliqué sur eux, car il s'agit de percevoir les soldes. Selon les informations recueillies au sein de ces militaires en mission, ils se basent sur la dernière paie du mardi de cette semaine pour 2 mois de novembre et décembre de l'année dernière, où la solde a été calculée à 1950 francs burundais le dollar, alors que le taux du jour de la banque centrale était de 2030. Selon ces mêmes sources, chaque militaire qui avait droit à 2 mois de salaire plein a perdu 5 000 francs burundais par mois, soit 200 000 francs pour les 2 mois payés. Ceux qui avaient droit à 1,5 mois de salaire ont perdu chacun 150 000 francs burundais, alors que ceux qui ont perçu un demi-mois de salaire ont vu leur salaire diminuer de 50 000 francs bon, compte tenu du taux du jour de la Banque centrale. Ces soldes ont été donnés compte tenu de l'ordre de relève dans la mission. Ils estiment que c'est du vol qualifié attribué à les chefs en mission de maintien de la paix en Somalie.
Nous, il y a quelque chose qui nous implique par rapport à notre dernière paix de 2 mois. Le jour de la paix, le taux du jour qui était appliqué par la Banque centrale était de 2030. Nous, nous n'avons perçu que 1950 francs bou en échange d'un dollar américain. C'est vraiment injuste. À ce moment, sur le marché noir, le dollar s'échangeait à plus de 3000. Pour ceux qui ont perçu 2 mois de salaire, ils ont perçu 100 000 par mois, soit 200 000 pour les 2 mois ainsi de suite. Vous entendez que la perte est énorme. C'est vraiment du vol sans nom. Cela est imputable aux responsables de la MISOM.
Face à toutes ces inquiétudes, la rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore obtenu la version du porte-parole de l'armée burundaise pour plus d'éclaircissements sur ce dossier.
La communauté internationale doit garder un œil vigilant sur les activités des militaires burundais et des Imbonerakure présents en République démocratique du Congo, parce qu'ils peuvent faire du mal d'un moment à l'autre aux réfugiés burundais qui sont en RDC. Cette alerte a été lancée par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, dans une déclaration sortie mardi dernier. Selon Léopold Chalangawo, vice-président de cette coalition, les inquiétudes sont fondées sur le fait que ces militaires et ces Imbonerakure sont localisés non loin des camps des réfugiés qui avaient fui leur persécution.
La CBDH Vicar a sorti cette déclaration sur le déploiement officiel des militaires burundais à la République démocratique du Congo pour montrer son inquiétude de ce qui peut arriver aux réfugiés burundais qui sont dans les zones qui ne sont pas loin des zones où campent ces militaires burundais. Parce que les territoires d'Ofizi, Uvila et Mwenga ne sont pas loin des camps de réfugiés d'Osenda et aussi de Murungwe. Les réfugiés burundais en RDC sont en insécurité, même dès leur arrivée dans les camps de réfugiés à cause des groupes armés, notamment les Maïmaï, qui ont de bonnes collaborations avec les certains policiers qui sécurisent les réfugiés et aussi d'autres groupes qui opèrent dans la localité. Ces Maïmaï alertent et tuent ceux qui le veulent, même aux yeux des policiers qui sécurisent les réfugiés. Nous nous demandons alors comment ces réfugiés vont vivre dans la même localité avec les militaires et les Imbonerakure pendant que ces Burundais ont fui le pouvoir qui les a envoyés en RDC. On a aussi exhorté à la communauté internationale de continuer de suivre de près la situation sécuritaire en RDC et prendre des décisions nécessaires pour sauver ceux qui peuvent être victimes de cette insécurité.
Inzamba.
Dans la page éducation, plus de 30 écoles privées ont été fermées mardi par le ministère de l'Éducation nationale. Ces établissements sont accusés de fonctionner sans autorisation officielle, d'avoir des infrastructures non conformes aux normes exigées et d'insalubrité notoire. Pour Eulalie Nibizi, activiste de la société civile qui milite en faveur d'une éducation de qualité, cette décision n'était pas mauvaise en soi, mais à la veille de la rentrée scolaire, le moment est mal choisi. Elle explique que le ministère en charge de l'éducation devrait mesurer les conséquences de cette mesure sur les élèves et les parents qui sont déjà prêts pour la prochaine rentrée scolaire. Les risques d'abandon sont énormes selon Eulalie Nibizi.
À notre avis, la fermeture d'une école qui ne fonctionne pas conformément aux normes est une question tout à fait normale. mal. Seulement, il reste à vérifier si comment ces écoles-là ont pu ouvrir les cycles ou les sections en dehors du contrôle du ministère. Deuxièmement, il faut vérifier est-ce que le ministère avait mis en place des modalités de fonctionnement, des principes ou même des directives en ce qui concerne l'ouverture et les avait publiées au niveau de la commune et au niveau de la direction communale de l'enseignement. Est-ce que les écoles qui ne sont pas en ordre auraient reçu des lettres d'avertissement, des visites, des constats de faute pour en arriver à une décision finale de fermeture? Une autre question aussi qui se pose. Maintenant, nous sommes à la veille de la rentrée scolaire, à moins d'une semaine. Et voilà, en une semaine, les parents sont surpris par une ordonnance qui ferme la section ou le cycle d'enseignement, alors que sûrement qu'ils avaient déjà fait inscrire leurs enfants dans ces écoles-là. Ils avaient déjà acheté le matériel scolaire, les uniformes et les livres et cahiers pour ces écoles. Comment est-ce que le parent qui avait déjà investi pour envoyer ses enfants dans ces écoles-là va encore une fois se réorganiser pour chercher une place pour ses élèves? C'est ça notre préoccupation. D'où nous demandons un partage d'informations, mais une sensibilisation des parents sur les normes qu'il faut observer avant de faire inscrire leurs enfants dans certaines écoles.
Les enfants mendiants sont de nouveau dans les rues dans la ville de Muyinga. En juillet dernier, les enfants en situation de rue avaient été retirés de la rue et remis à leur famille. Mais ils ont regagné leur emplacement d'antan. Selon certains d'entre eux, c'est la misère qui les pousse à retourner dans la rue pour quémander. Une situation similaire se présente dans la province de Kayanza, où des personnes vivant de la mendicité se retrouvent encore dans différentes places du centre urbain de Kayanza. Pour le psychologue Ernest Ngundiza, la pauvreté et la maltraitance sont parmi les causes du phénomène des personnes en situation de rue. Il fait remarquer que les mesures oppressives ne suffisent pas pour dissuader ces enfants de retourner dans la rue.
Les causes à l'origine du phénomène varient d'un pays à l'autre, d'une ville à l'autre, d'une personne à l'autre. La pauvreté, les déplacements dus à des catastrophes naturelles et des conflits ou éclatements de la famille, les décès des parents, la négligence parentale, la violence et la maltraitance, la discrimination, le manque d'accès à la justice sont autant de facteurs qui contribuent à cette situation. Chaque enfant a donc sa propre histoire unique. Dans un pays le plus pauvre du monde, comme le Burundi, dans un pays de crises politiques cycliques et violentes, comme le Burundi, dans un pays où les droits de l'homme sont constamment bafoués, comme le Burundi, dans un pays où l'injustice sociale constitue une triste réalité, comme le Burundi, il est indiscutable que le phénomène d'enfants de rue y sévit. Ainsi, ce n'est pas par la violence et la répression qu'on peut résoudre le phénomène, comme semble le faire le gouvernement du Burundi. D'abord, l'État du Burundi doit être conscient de sa responsabilité vis-à-vis de la situation. Il est auteur et coupable du phénomène d'enfants des rues pour avoir sémé et alimenté l'insécurité chronique, les violences d'État, la paupérisation, les crises politiques, la haine politico-ethnique et j'en passe.
Pour lutter efficacement contre ce phénomène, Ernest Ngundiza, psychologue et défenseur des droits humains, appelle les autorités burundaises à créer un climat propice à la réinsertion de ces enfants et adultes. Et voilà, c'est par ici que se ferme cette rétrospective hebdomadaire de l'actualité. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée chez vous. Au revoir.
Rétrospective de l'actualité de la semaine.